Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G 101.5 FM, radio-g.fr et en DAB+. Aujourd'hui, 6e épisode de Rencontre avec Camille Godin, chargée de mission chiroptère pour la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Bonjour Camille.
Bonjour Nicolas.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va super. Belle journée ensoleillée, donc tout va très bien.
Merci d'avoir accepté de venir dans Rencontre sur Radio G aujourd'hui.
Eh ben merci à toi, ça me fait très plaisir de pouvoir t'accueillir un petit peu dans ce qui est mon travail et ma vie de tous les jours.
Justement, Camille, pour commencer, je te laisse me présenter où nous nous trouvons aujourd'hui.
Eh ben on se trouve donc dans mon bureau, alors je dis mon bureau mais on est plusieurs à le partager, qui est dans l'enceinte de la LPO Anjou, donc l'antenne qui est à Angers, puisqu'on a également une antenne à Saumur. Donc voilà, on est dans nos locaux et dans le bureau que je partage avec mes différents collègues.
Pourquoi ce choix pour me accueillir ici aujourd'hui?
Eh ben parce qu'effectivement, c'est quand même mon lieu de travail quotidien. Je fais pas mal de terrain, mais finalement, on passe beaucoup de temps au bureau. Donc, c'est important d'avoir un espace dans lequel on se sent bien. Et là, on a un bureau qui est vraiment lumineux, avec des petites plantes. C'est quelque chose d'assez agréable.
Et on voit avec des petits affichages sympas un peu partout. Camille, je l'ai dit en introduction, tu chargeais une mission sur les chiroptères pour la LPO. Mais alors, c'est quoi les chiroptères? Et pas chiroptères, chiroptères.
Eh ben, effectivement, donc les chiroptères, c'est l'appellation scientifique des chauves-souris. Tout simplement parce que les chiroptères, donc chiro, ça vient de l'appellation, ça veut dire main ailée, en fait. Donc puisque les chauves-souris, au niveau de leurs ailes, ont des équivalents comme nos mains à nous, avec nos différents doigts. Les chauves-souris, leurs ailes, c'est composé de doigts. Et donc, ce sont les seuls mammifères à voler de manière active. Et donc voilà, chiroptère, ça vient de là. Donc si jamais j'utilise le jargon chiro, même au lieu de chiroptère, il faut pas hésiter à m'interrompre, mais voilà, c'est que je parle des chauves-souris.
C'est le jargon scientifique, donc chiroptère. Quoi ça consiste, donc, ton métier de chargé de mission auprès des chauves-souris, si on reprend le terme un peu plus classique?
Eh bien, en fait, alors quand même pour revenir juste sur la LPO Anjou, on est à l'heure actuelle 3 chargés de mission chiroptères, avec justement différentes missions, puisque les chauves-souris, c'est un domaine extrêmement vaste. Et donc moi, ma mission, c'est en premier lieu ce qu'on appelle l'animation de sites Natura 2000. Donc Natura 2000, pour expliquer et très rapidement ce que c'est, ce sont des sites qui ont été désignés au niveau européen par des textes qui sont des directives, qui vont lister tout un tas d'espèces, à la fois animales ou végétales. Et du coup, il y a des sites en Anjou qui ont été désignés pour la préservation des chauves-souris. Et donc l'animation de ces territoires et essayer justement de faire en sorte que les chauves-souris soient protégées et prises en compte dans tout un tas de projets, en fait, donc que ça soit le milieu agricole, le milieu forestier, ça passe par justement des contacts avec les acteurs, des suivis scientifiques. Donc il y a une partie de mon métier aussi qui est composée de tout ça, des suivis en hiver, des suivis en été. Donc ça voilà, c'est une partie de mon travail entre autres. Et après il y a tout ce qui est un volet d'expertise. Donc là c'est plutôt de l'accompagnement qu'on va avoir auprès de collectivités, notamment le département de Maine-et-Loire. On va intervenir sur les espaces naturels sensibles, donc il y a un autre type d'espace qui a une vocation à la fois de connaissance du territoire et de sensibilisation auprès du grand public. Et donc là, nous, on intervient très régulièrement pour faire des inventaires sur les sites, tout simplement pour savoir les espèces qui sont présentes et adapter notamment tout ce qui est préconisation de gestion. Donc c'est-à-dire qu'un site, un espace naturel, il va avoir tout un tas de composantes paysagères, services écosystémiques et autres. Et du coup, on est là, nous, pour dire, en fonction des espèces qu'on va trouver, quelles mesures vont pouvoir être prises en compte pour faire en sorte que les espèces y restent ou justement y soient plus favorables.
C'est un gros travail.
Oui.
À la fois de bureau, à la fois de terrain. Donc tu vas sur le terrain pour aller observer, écouter ces chauves-souris?
Ouais, c'est ça. Notamment, donc en hiver, on va faire ce qu'on appelle des suivis en cavité. Donc on va aller dans des cavités souterraines pour faire du recensement d'individus. En été, on fait quelque chose d'un peu différent. On fait des sorties de gîtes, c'est-à-dire qu'on va vers les colonies de mise bas où il y a des femelles, qui vont sortir donc à la tombée de la nuit pour aller chasser. Et du coup, nous, une partie de notre travail, c'est d'aller recenser les populations de ce point de vue-là. Et donc, en fait, on fait du travail nocturne où on sort, on attend que les chauves-souris sortent et on compte tout ce qui sort. Et une partie de mon travail, c'est aussi de l'inventaire acoustique. Donc là, c'est encore une autre chose où j'ai un petit détecteur à ultrasons, qui est un appareil qui nous permet en fait d'entendre ce que produisent les chauves-souris, puisque les ultrasons sont inaudibles à l'oreille humaine, et de déterminer du coup les espèces qui sont présentes.
Pourquoi est-ce que la LPO, elle s'intéresse aux chauves-souris?
Et ben en fait, effectivement, la LPO, donc comme tu l'as dit, c'est la Ligue de protection des oiseaux, parce que c'est l'appellation vraiment historique d'il y a un certain nombre d'années. Mais en fait, aujourd'hui, la LPO, elle s'intéresse à toute la biodiversité de manière générale. Donc on travaille aussi sur, par exemple, de la flore, des mammifères semi-aquatiques, des insectes. Enfin vraiment, il y a tout un tas d'actions. et les chauves-souris, aujourd'hui là notamment en Anjou, c'est qu'il y a un très gros enjeu de conservation. En fait, au niveau de la région Pays de la Loire, le Maine-et-Loire est un département extrêmement important, voilà, avec vraiment de très gros enjeux sur certaines espèces au niveau des populations. Et donc, il y a beaucoup de prise en compte à avoir de ces espèces-là.
On pourrait se demander à quoi ça sert une chauve-souris. Parce que finalement, quand on le regarde dans la vie de tous les jours, on les voit passer la nuit ou pas, ça dépend de où on se trouve et du moment de la nuit. Mais à quoi ça sert réellement? C'est quoi leur utilité?
Et ben du coup, alors c'est vrai que là on va parler plutôt de ce qu'on appelle des services écosystémiques, donc la vision qu'on peut avoir des animaux ou d'individus, enfin d'êtres vivants et les services qui vont rendre entre guillemets à l'homme. J'aime pas forcément.
Alors pas forcément à l'homme, hein, mais à la nature en règle
générale. Ouais, bien sûr, je sais que c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais de manière générale, les chauves-souris, donc en Europe, elles sont toutes insectivores, donc elles vont consommer des insectes et elles ont une très grande consommation d'insectes puisque l'énergie en fait qui est déployée par les chauves-souris pour voler, c'est très très coûteux, enfin en tout cas ça demande beaucoup d'énergie, donc elle consomme beaucoup d'insectes, notamment tout ce qui va être moustiques, mouches, ça peut être aussi des araignées, des coléoptères, bref ça passe par toute une gamme d'insectes inimaginables, et du coup sans ça, et ben en fait déjà on aurait beaucoup plus par exemple de moustiques, et en l'occurrence au niveau du milieu agricole par exemple, les chauves-souris sont connues pour être ce qu'on appelle des auxiliaires de culture, en fait elles vont prédater du coup les insectes qui normalement vont faire des dommages sur les cultures céréalières par exemple ou autres, donc du coup hyper utile de ce point de vue-là. Et ouais, c'est vraiment globalement un des services majeurs qu'on peut leur donner.
Ouais. Donc elles sont vraiment importantes pour notre culture à nous aujourd'hui.
Oui.
Et alors du coup, tu disais à Angers, en tout cas dans le Maine-et-Loire, parce que c'est dans le Maine-et-Loire que tu travailles, il y a une population qui est un peu en danger. Donc aujourd'hui, on a moins de chauves-souris qu'ailleurs en France.
On n'a pas forcément moins de chauves-souris en tant que telles. En fait, même globalement, là, au niveau national, les différentes études qui sont menées depuis déjà 20-25 ans montrent qu'il y a certaines espèces, notamment des espèces qui étaient vraiment en danger il y a 20-30 ans, qui, en fait, du coup, ces espèces-là sur lesquelles on a mis des efforts de conservation au niveau national, du coup, il y a tout un tas de politiques de préservation qui ont mis des efforts là-dessus. Elles se portent mieux qu'aujourd'hui, quand même, qu'il y a 50 ans. Mais c'est quand même pas le cas pour toutes les espèces. Et nous, on sait simplement qu'en Maine-et-Loire, on a des enjeux de préservation parce que on a des noyaux de population qui sont vraiment représentatifs, enfin, sur lesquels on a une responsabilité vis-à-vis des populations régionales. Donc elles sont pas forcément extrêmement menacées, elles sont quand même pas forcément en excellente santé, mais du coup il y a vraiment des enjeux parce que les noyaux de population sont localisés en Anjou en fait.
D'accord. Donc il y a un enjeu de conservation qui fait partie de ton travail, un enjeu aussi d'observation, d'apprendre à les connaître ces chauves-souris et de savoir comment elles travaillent et elles vivent.
Et ben du coup les chauves-souris elles ont un, alors si on essaye, donc voilà aujourd'hui maintenant c'est assez plutôt bien connu, pareil les chauves-souris qui sont en Europe, elles ont un cycle de vie qui est découpé en 4 phases, donc une phase notamment d'hibernation, donc là en fait on va rentrer tout juste en ce moment dans cette phase-là qui est de novembre à mars, où les chauves-souris en fait rentrent en léthargie.
Okay.
Donc en fait, elles se plongent dans une sorte de phase de sommeil extrêmement profond. Alors elles peuvent se réveiller pendant l'hiver, mais elles ont vraiment un système où elles diminuent complètement tout leur métabolisme pour être complètement au ralenti. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a plus d'insectes à manger en hiver, donc c'est un
elles
mécanisme.
Une petite pause, comme beaucoup d'animaux finalement hibernent en hiver.
C'est ça, c'est exactement ça. Et donc voilà, c'est une phase où c'est extrêmement sensible, puisqu'en fait, quand elles se réveillent, relancer leur organisme, c'est très très coûteux en énergie. Voilà, elles sont vraiment complètement ralenties, donc il faut relancer la machine. Ça peut être très coûteux. Donc c'est une des phases très sensibles pour les chauves-souris. Ensuite, il y a une période de transit printanier où en fait les chauves-souris vont sortir de leur léthargie, commencer à reconsommer de l'insecte, et où elles vont aller vers leur site d'été, puisque c'est pas forcément les mêmes que ceux d'hiver. Et donc en été, les femelles se regroupent entre elles pour mettre bas. Et voilà. Elles ont un jeune parent et pas tous les ans. Et du coup, elles se regroupent dans des lieux. Donc, la plupart des chauves-souris que nous, on suit, c'est dans du bâti humain. Donc, ça va être des églises, ça peut être des combles, ça peut être des greniers de ferme, ça peut être tout un tas de bâtiments. Et du coup, là, c'est pareil, c'est une période super sensible puisque les juvéniles, au départ, sont pas volants. Donc, si jamais il y a du dérangement ou autre, ça peut être des problèmes de dérangement qui vont causer la désertion de la colonie ou des choses comme ça. Et à l'automne, les chauves-souris quittent leur gîte de mise bas pour se reproduire, puisqu'elles ont une fécondation différée. Donc elles se reproduisent à l'automne. La femelle va stocker le sperme du mâle et redéclencher la fécondation quand elle sera au printemps, quand la bonne saison arrivera.
Merci Camille, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis. Tu parles justement que les chauves-souris, elles vivent dans les habitats humains, églises, combles, etc. Qu'est-ce que je fais demain? J'ai une chauve-souris chez moi dans mes combles. Comment ça se passe?
Eh ben, alors après, justement, donc ça, c'est des choses, j'en ai pas forcément parlé au début, mais c'est une grosse partie aussi de mon travail. J'ai une service civique qui, une ou un service civique qui m'aide sur ce volet-là, qui est tout ce qu'on appelle la médiation, en fait, avec la faune sauvage. Et notamment, moi, c'est très spécifique sur les chauves-souris, où on reçoit beaucoup d'appels, notamment à la période estivale, parce que c'est là où les chauves-souris sont les plus remarquées, finalement, quand elles sont dans du bâti humain. En fait, il faut savoir que l'intégralité des chauves-souris sont protégées au niveau national.
D'accord.
Donc, en fait, il est interdit de les détruire, de les déranger, etc. Donc, en fait, dès lors qu'une chauve-souris, normalement, est dans un lieu, on va considérer aussi que son habitat, donc l'endroit où elle est, il est protégé également. Donc, pareil, on n'a pas le droit, normalement, de le détruire, de le modifier. Et donc, selon les cas, si jamais tu dis, j'ai une chauve-souris chez moi, qu'est-ce qui se passe? Et nous, dans l'idéal, en fait, quand on reçoit des appels, c'est de favoriser la cohabitation. Donc, ça va être de trouver toutes les solutions possibles. Si jamais des nuisances sont rencontrées éventuellement, puisqu'il peut y en avoir, ça va être de trouver des solutions pour que la cohabitation, on va dire, humain-animal, se passe le mieux possible.
D'accord, mais on va pas forcément leur dire « vous allez changer d'endroit », c'est à nous de nous adapter.
C'est ça.
C'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde.
C'est ça.
On a parlé rapidement de la LPO. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus l'association ? Elle travaille sur, on l'a dit, la faune, la flore, les oiseaux, les chiroptères, à la protection et puis à l'adaptation aussi des humains à la biodiversité.
Oui, tout à fait. En fait, la LPO, au niveau, c'est une association qui est donc nationale. Là, il y a la LPO France. Et en fait, après, il y a tout un tas d'associations locales qui sont du coup situées au niveau départemental. En termes d'échelle, c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Et donc, nous, la LPO Anjou, on intervient exclusivement, en tout cas au niveau de l'échelle du territoire du Maine-et-Loire. Et on travaille, en tout cas, nous, plus sur vraiment des volets de conservation. C'est-à-dire qu'on a quand même une vocation de connaissance, donc d'acquisition de données sur la faune et la flore du département. Mais notre mission première, finalement, c'est vraiment de la protection et de la conservation. Donc vraiment quelque chose plutôt sur du long terme et de faire en sorte aussi que la biodiversité soit prise en compte dans toutes les échelles des territoires, dans tous les programmes qui peuvent avoir lieu en fait.
Et donc on peut s'engager en tant que bénévole finalement parce que c'est une association.
Oui, tout à fait. On a tout un tas d'actions. Sincèrement, là par exemple, on a bientôt des chantiers de plantation de haies. On a des activités de recensement d'oiseaux en migration par exemple. Même nous, pour les chauves-souris, on a énormément de sites en hiver par exemple à comptabiliser. Ça serait infaisable à faire au niveau salarié avec autant de sites. Donc du coup, on se repose beaucoup aussi sur les bénévoles qui sont super engagés. Et donc, on cherche toujours un petit peu de personnes pour nous aider en plus. Aucun souci. Vous pouvez venir, il y en a pour tous les goûts.
Voilà. Si vous écoutez cette émission, vous avez envie de faire du bénévolat, la LPO Anjou recrute.
Exactement.
Et bien Camille, on va marquer une pause musicale. Et puisqu'écoutez, tu l'as dit, les bruits ultrasons des chauves-souris, c'est quand même pas très agréable et un peu inaudible à l'oreille humaine, je vais plutôt te laisser nous présenter la musique que tu as choisi de nous partager aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai que du coup, c'était pas évident de choisir une musique, mais en fait, je me suis tournée vers un groupe qui s'appelle Skald. Alors même, je pourrais le prononcer à la norvégienne, donc Skald, qui est un groupe français, contrairement à ce que son nom indique, okay. Et qui fait ce qu'on appelle de la musique néo-folk et qui chante en vieux norrois, donc un vieux norvégien, et qui retrace en fait tout un tas de légendes nordiques. Et la chanson en question, elle s'appelle Jólanot, et en fait qui est là pour célébrer à la fois l'hiver et la reconnexion du monde justement avec le monde vivant, du monde humain avec le monde vivant pendant cette période, et aussi célébrer les jours nouveaux qui sont le printemps à la fin de l'hiver. Donc je trouvais que c'était plutôt adapté.
Eh ben écoute, on va découvrir ça tout de suite. Fínu og ber
Rencontre sur Radio G 101.5 FM.
En compagnie de Camille Godin, spécialiste des chauves-souris au sein de la Ligue de protection des oiseaux. Et on vient d'écouter You're la note de Skald, la musique que tu as choisie aujourd'hui pour nous, Camille. Merci pour ce choix.
Mais merci à toi et j'espère que voilà, ça aurait été apprécié. C'est pas forcément très connu, donc...
Eh ben, c'est sur Radio G, parfois on écoute pas forcément des choses très connues, mais c'est ça qui fait la richesse de cette radio. Alors Camille, au-delà de ton métier, la chauve-souris, le chiroptère, c'est aussi ta vie. Tu adores cet animal, mais alors, te vient d'où cette passion ?
Eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas quelque chose finalement, voilà, je me suis pas réveillée à 4 ou 5 ans en me disant, tiens, je travaillerai sur les chauves-souris plus tard. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fil du temps et de mes expériences professionnelles et personnelles. C'est vrai que ça remonte, on va dire, je pense que j'étais déjà fascinée par les chauves-souris quand j'étais un peu plus petite, que voilà, j'en voyais voler autour de chez moi, donc c'était un peu le premier contact. Et j'ai eu aussi l'occasion, quand j'étais en CM1, alors voilà, il y a plein de gens qui font des exposés sur des lions, sur des ours, sur des tigres. Et moi, mon exposé portait sur la chauve-souris vampire, donc des fois, je me dis qu'il y avait peut-être un signe.
Il y avait un signe, ouais, de départ.
Et après, voilà, c'est vraiment au fil de mes expériences professionnelles qui m'ont fait rencontrer tout un tas de personnes, notamment aussi très passionnées, qui m'ont rendue curieuse vraiment de cet animal. Et en fait, ouais, aujourd'hui, je suis très très contente de pouvoir travailler là-dessus à temps plein. Et à tel point même que je me suis fait tatouer une chauve-souris parce que pour moi, je l'ai dans la peau et ça, je vois pas comment ça pourrait changer d'ici à un certain nombre d'années.
Qu'est-ce qui t'attire finalement dans cet animal ?
Eh ben, c'est sa complexité. Il faut savoir que les chauves-souris, c'est un domaine d'étude qui est assez récent finalement par rapport à... Par exemple, si on prend les oiseaux, c'est quelque chose qui était assez facile pour les naturalistes. Donc les naturalistes, ce sont les personnes qui vont avoir une certaine sensibilité et de volonté de connaissance vraiment de la biodiversité, donc ils vont vouloir l'étudier. Les chauves-souris, comme tu l'as dit, voilà, on ne peut pas entendre les sons qu'elles émettent. Et en plus, ce sont des animaux nocturnes. Donc vraiment, en tant qu'humains, nous, on est vraiment très dépourvus de nos sens pour pouvoir les étudier. Donc c'est resté très obscur pendant de très nombreuses années. Et finalement, l'essor de l'étude des chauves-souris, elle vient avec l'étude de l'acoustique, où on s'est rendu, voilà, avec le déploiement de matériel technologique qui aujourd'hui nous permettent justement d'étudier les chauves-souris via leurs ultrasons notamment. Ça fait depuis les années 80, en gros, qu'on s'y intéresse vraiment beaucoup. Et donc, en fait, c'est une science récente et il y a encore des tas de choses qu'on a à apprendre et il y a encore beaucoup de comportements qu'on est en incapacité d'expliquer. Et donc, moi, je trouve que c'est fascinant. Et à côté de ça, ce sont des animaux qui ont un métabolisme, encore une fois, qui est extrêmement impressionnant pour un si petit animal. Voilà, la plus petite chauve-souris en France, elle fait 4 à 5 grammes. Donc, c'est vraiment extrêmement faible en termes de poids. Et il faut savoir que si on compare un cœur humain, par exemple, notre cœur au repos, il est à peu près à 60-70 battements par minute. Une chauve-souris au repos, c'est à peu près 400 battements par minute.
Ah ouais.
Quand elle se met à... Quand elle se met à voler, elle est entre 800 et 1000 battements par minute.
Ah oui.
C'est impressionnant.
On n'est vraiment pas sur le même degré de...
Pas du tout. Et donc, quand elle se met en léthargie, donc cette fameuse phase de, on va dire, sommeil profond en hiver, là, on est à quelques battements par heure seulement.
D'accord. Ouais, donc elles ont une belle régulation quand même de battements de cœur, contrairement
ça.
À l'humain.
C'est... Ouais, il y a une très grosse variation voilà, métabolique qui est quand même, moi, que je trouve assez fascinante et qu'on retrouve chez des très grosses chauves-souris comme chez des toutes petites chauves-souris. Donc, voilà, c'est une faculté assez intéressante. Et au-delà de ça, il y a tout un aspect social aussi. Les chauves-souris sont des animaux qui vivent en groupe, vraiment. Et donc, il y a tout un tas de comportements qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais on sait qu'il y a de la communication entre individus. Il y a une mémoire collective, notamment des endroits qu'elles ont fréquentés entre les générations. Donc voilà, des colonies qui vont rester, en fait, les chauves-souris sont très fidèles, c'est-à-dire qu'elles vont revenir toujours aux mêmes endroits, donc en hiver et en été. Et on a des colonies qui, pendant 20, 30, 50 ans, vraiment reviennent toujours au même endroit, alors qu'a priori, c'est plus exactement les mêmes générations de chauves-souris. C'est plus, ça peut vivre assez longtemps, mais voilà, il y a eu vraiment de la passation d'informations entre les individus. Donc ça, c'est vraiment tout cet aspect-là qui les rend, je trouve, extrêmement intéressantes.
Alors, Camille, comment t'en es arrivée à travailler sur la chauve-souris? Sur la LPO, t'as fait quoi? C'est quoi ton parcours d'études et professionnel avant d'arriver là, dans ce bureau?
Du coup, j'ai fait un parcours, on va dire, assez classique au niveau études. En fait, moi, j'ai fait un bac scientifique et après, je me suis dirigée.
C'est souvent le cas quand
voilà.
On fait des études de sciences.
C'est plutôt adapté. En tout cas, c'est vrai que ça permet d'avoir plutôt des clés quand même de compréhension là-dessus. Je me suis dirigée ensuite vers une fac de biologie. Voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait effectivement de manière générale, mais j'étais pas trop encore sûre de ce que je voulais faire. Donc voilà, une licence de biologie et puis ensuite un master en écologie. À Paris. Et donc là déjà j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, notamment j'ai découvert un petit peu l'étude acoustique des chauves-souris lors de mon stage de fin d'études en Master 2. Donc ça déjà je trouvais ça super intéressant. Ça rend vraiment le monde nocturne totalement nouveau en fait quand on arrive à découvrir ce monde-là. Donc ouais, c'était super intéressant. Et puis ensuite, ma première expérience professionnelle, j'étais au conseil départemental du Val d'Oise. Okay. J'ai travaillé en tant que chargée d'études. Alors collision faune sauvage, c'est pas très sexy comme nom, mais globalement en fait ça consistait à étudier les points de collision en fait qu'il pouvait y avoir avec la grande faune et les routes départementales. Voilà, l'idée était de trouver des solutions justement pour réduire ces risques de collision avec la grande faune, donc parmi tout un tas de mesures. Donc ça, c'était ma première expérience et de 9 mois. Et ensuite, je suis allée au parc naturel régional du Vexin français. Voilà.
Qui se situe à peu près
Alors, c'est dans le Val d'Oise, mais du coup, le siège est à Théméricourt. Donc, c'est dans la partie Vexin du
D'accord.
Val d'Oise.
Ok.
Donc, un peu dans la campagne. Et donc, en fait, ce poste-là, j'étais chargée de mission Natura 2000. Donc, voilà, la politique dont je t'ai parlé tout à l'heure, ouais. Bah, y a un équivalent dans le Val d'Oise. Il y a des sites qui sont désignés pour tout un tas d'espèces. Et j'avais 3 sites en gestion, notamment un qui était dédié aux chauves-souris. Donc j'ai été amenée vraiment à faire des suivis, notamment dans ces cadres-là. Et en fait, j'ai aussi repris des missions qu'un salarié du PNR en fait avait laissé puisqu'il est parti ailleurs pour d'autres choses. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir gérer finalement beaucoup de choses liées aux chauves-souris puisqu'il était le référent. Et du coup, il y avait plus d'autres personnes au sein de la structure pour vraiment assurer cette mission-là. Et comme ça m'intéressait, je me suis dit bon bah allez.
C'est parti, go, on y va. Et...
C'est ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, je pense que ça a vraiment commencé à m'intéresser vraiment de plus en plus. Et vraiment, j'ai rencontré des gens hyper pédagogues, très passionnés. Et je crois que vraiment, c'est à ce moment-là où plus je m'y suis intéressée, plus je me suis dit, ça me dirait bien de bosser un peu plus qu'une toute petite partie de mon temps, finalement, sur ces individus-là. Et j'ai eu l'occasion de trouver ce travail, bah, du coup, à la LPO Anjou, il y a 3 ans maintenant. Et donc, du coup, voilà, maintenant, je travaille à 100% sur les chauves-souris.
Et t'en es ravie.
Exactement, ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de tout ton parcours professionnel pour aujourd'hui travailler? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment servi dans tout ce que t'as fait aujourd'hui? Il y a des choses où tu te dis là, ça m'a un peu moins servi, mais en fait, ça...
Là, aujourd'hui, je dirais, c'est vrai que toutes mes expériences, elles m'ont permis... En fait, je fais aussi de la formation, par exemple, auprès d'étudiants, auprès de professionnels. Mmh. Il y a tout un tas de choses que, déjà, l'université m'a apprises. Cette formation scientifique, c'est toujours d'avoir un esprit un peu critique et puis surtout d'aller chercher de nouvelles informations. Il y a toujours une curiosité scientifique qui est toujours présente. Donc, le réseau chauve-souris, aujourd'hui en France, il est assez mobilisé et il y a beaucoup de partage d'expériences. Donc en fait, nous, on a une vraie volonté toujours de se former et de s'informer davantage pour savoir comment tout ça fonctionne. Donc ouais, je retire plutôt cet aspect-là. Et puis, le fait de travailler avec un grand réseau d'acteurs, je ne l'ai pas forcément dit dans la curiosité que j'ai aussi avec les chauves-souris, mais c'est que les chauves-souris, en fait, elles sont impliquées dans toutes les phases de notre quotidien et dans plein de secteurs en fait, à la fois dans le milieu agricole, donc comme je l'ai dit, ce sont des auxiliaires de culture. En milieu forestier, en fait, on a des espèces de chauves-souris qui sont exclusivement arboricoles, donc elles gîtent dans les arbres, elles sont liées au bâti, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec la rénovation justement des bâtiments, avec l'isolation par l'extérieur, etc. Et en fait, le fait de travailler sur les chauves-souris permet vraiment de pouvoir balayer tout un tas de sujets et donc d'avoir d'avoir un travail et finalement des missions extrêmement variées. Et donc, bah, moi, ce que je retire de tout ça, c'est vraiment le contact multi-acteur qu'on peut avoir au quotidien, qui est toujours hyper formateur et qui permet aussi de pas complètement rester dans sa bulle, entre guillemets, de chauve-souris et pas forcément essayer de voir comment les autres acteurs du territoire conçoivent aussi les choses, quoi, et de pouvoir travailler ensemble.
Un vrai travail de partenariat, de
complètement.
Plein de monde ensemble, qui, toi, ouais. Du coup, te fait faire plein de choses aussi.
C'est ça.
Et qui rend les côtés un peu intéressants, finalement.
Ah, bah, complètement, oui, c'est, on s'ennuie jamais et j'ai vraiment des journées qui se ressemblent finalement très peu. Bon, à part en ce moment, parce qu'on est dans une phase de rédaction de rapport, voilà. Mais sinon, en fait, on a vraiment des journées très, très, très différentes d'un jour à l'autre.
Et justement, parce que les chauves-souris vivent la nuit, tu travailles aussi beaucoup de nuit ?
Oui, notamment en été. Effectivement, là, à partir de mai jusqu'à juillet et aussi un peu en septembre, c'est vraiment les phases où on fait pas mal d'inventaires, notamment acoustiques. Et donc, effectivement, on travaille en décalé. Donc, à ces moments-là, moi, je décale mes journées. On est assez souple là-dessus. Et donc, je démarre ma journée vers 14, 15 heures des fois. Et je travaille jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, selon les cas.
En extérieur complet.
Ouais, totalement.
Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait travailler sur la chauve-souris, tu dirais quoi ?
C'est une grande question. Déjà qu'il y a toujours du travail dans le sens où, encore une fois, il y a plein de choses à découvrir. Donc, je sais qu'il y a plein de sujets, par exemple, de thèses qui se font et de projets de recherche là-dessus parce qu'il y a encore des tas de choses qu'on comprend pas du tout. Donc, là-dessus, il y a clairement des choses à découvrir. Et après, bah, c'est un métier où il faut être... C'est vrai qu'il faut être passionné, il faut pouvoir être empathique. En tout cas, nous, quand on rencontre quand même pas mal de personnes qui peuvent avoir des fois des problématiques de cohabitation, etc. Donc, il faut pouvoir aussi comprendre ce que les gens vivent.
Justement sur la cohabitation, ça me fait penser à un truc. Ça fait du bruit, une chauve-souris ?
En fait, oui, globalement, donc les ultrasons, elles sont produits par les chauves-souris pour se déplacer et chasser, mais pas pour communiquer entre les individus. Je sais pas si c'est très, très clair. Et du coup, pour communiquer entre les individus, là, pour le coup, elles vont utiliser ce qu'on appelle des cris sociaux. Voilà. Et donc là, pour le coup, ce sont des choses qui sont audibles à l'oreille humaine. Donc du coup, quand il y a beaucoup de chauves-souris dans un endroit, et des fois, en fait, elles vont souvent se situer donc, dans les combles, et en dessous des combles, qu'est-ce qu'il y a de manière générale ? Des chambres. Et donc, en fait, c'est dans des cas comme ça où, effectivement, on peut avoir des problèmes de nuisance sonore liés aux chauves-souris.
D'accord, très bien, merci. Pardon, je t'ai coupé du coup dans ta
réponse.
Pas de
problème, non, pas de problème.
Et donc, du coup, tu disais sur donner des conseils, donc il y a beaucoup de choses, notamment de médiation, c'est ça, d'empathie à avoir.
Ouais, notamment. Et puis après, c'est encore une fois, ouais, de la curiosité, de la rigueur, par exemple, voilà, de l'entraînement, avoir une certaine humilité aussi. Et ça, mais je pense que globalement, quand on se met à travailler sur ce sujet-là, c'est finalement assez simple parce qu'il y a beaucoup de questions, des fois, que les personnes vont nous poser et en fait on ne saura pas répondre parce qu'on n'a pas les éléments de réponse encore aujourd'hui ouais, une certaine rigueur notamment dans l'approche qu'on va avoir avec les partenaires et puis même dans l'étude en tant que telle. Quand on fait par exemple de l'acoustique, ça demande vraiment beaucoup 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 d'entraînement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, donc il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup aller sur le terrain pour être sûr de ce qu'on raconte quand on dit bah voilà telle espèce est passée par là. Il faut être sûr de son identification et voilà, ça demande de la pratique.
Pour terminer, on approche de la fin de cet entretien. J'avais quand même envie de savoir, parce que tu le dis, il y a un réveil, un sursaut un peu là en ce moment, bailleurs sociaux et autres partenaires de la LPO, et puis même les humains en règle générale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger les chauves-souris ?
Ah là là, c'est une super vaste question, en vrai. C'est difficile de répondre.
Je pose de vastes questions.
Ouais, non. En fait, il y a plein de choses après que tout un chacun peut faire, parce qu'il y a des choses qui sont accessibles à tout le monde. Notamment, bah, c'est vrai qu'il y a juste déjà dans la cohabitation, c'est de se dire s'il y a quelques individus qui vivent chez soi, c'est pas forcément un drame. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, etc. Et c'est important de se dire qu'il faut retrouver une sorte de cohabitation entre l'homme et la nature. C'est vrai que c'est des espèces qui touchent un peu à notre intimité parce qu'elles vivent vraiment chez nous. Donc c'est pas forcément évident, mais de se dire, voilà, il y a des choses qu'on peut accepter. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, il y a tout un tas de pratiques. Par exemple, préserver les arbres qui ont des cavités, les arbres même vieillissant un petit peu, c'est des choses intéressantes. Dans les jardins, ça va être de laisser aussi accepter que la pelouse soit pas complètement tondue à ras parce qu'en fait, dès qu'il y a plus d'herbe, et ben en fait, il y a plus d'insectes. Donc il n'y a plus de ressources nutritives pour les chauves-souris. Donc juste laisser pousser, accepter qu'il y ait quelques zones de sauvages qui reviennent dans nos jardins, ça peut être une première chose. Et puis aussi, je pense, apprendre à s'émerveiller devant ces petites bêtes qui sont juste là et qui partagent l'espace avec nous, comme en fait tout le reste. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et ouais, j'ai pas beaucoup d'autres réponses, tellement ça serait très très large en fait. Voilà.
C'est déjà d'excellentes réponses, merci Camille. Eh ben merci beaucoup Camille.
Merci beaucoup à toi Nicolas.
Mais avec grand plaisir. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et podcaster Rencontres sur radio-g.fr ou sur Spotify. Tout dans 15 jours à 13h pour une nouvelle rencontre. Et demain à 19h pour C'est le week-end. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine, topette.